Alors, j'espère, mais je suis pas sûre. Disons, faudrait peut-être. Je me suis demandé en préparant cette intervention, c'est finalement pourquoi j'ai fait de l'histoire alors que je ne suis pas du tout historienne de formation. Je me suis trouvée en 1970 pour mon premier poste à l'école normale de Versailles, de garçon à l'époque, avant la crise économique de 1976, donc à une époque où les garçons entraient à reculons dans l'enseignement. Et où, une fois qu'ils avaient eu le bac, les deux années de formation qu'on leur imposait, les concevaient prioritairement comme deux années de grandes vacances avant les choses sérieuses qui ne seraient pas drôles. Et beaucoup se disaient qu'ils auraient bien aimé faire autre chose qu'être dans l'enseignement à l'époque. Ils étaient là parce que leurs parents les avaient obligés à se présenter en classe de troisième ou parce qu'ils avaient commencé des études universitaires qu'ils avaient manqué et qu'il fallait bien gagner sa vie et que ces années de formation étaient payées. Et donc du coup je me suis trouvée devant une situation très difficile d'un point de vue pédagogique. J'étais un professeur en échec qui avait à parler de la formation générale, c'est-à-dire de tout ce qui n'était pas les pédagogies spéciales disciplinaires, puisque moi ma discipline de référence c'était la philo, et alors que je croyais à l'école normale me trouver en terrain je dirais familier, puisque j'avais le sentiment que l'école secondaire et l'université, c'était pas ma maison. Enfin, il y avait personne. J'étais la première d'une longue lignée familiale à pénétrer dans ces lieux-là. Et j'avais compris que c'était très bien d'avoir fréquenté du beau linge, mais que je me sentirais mieux chez moi dans une école normale. Et je découvrais en 70, dans la région parisienne, une école primaire que je ne connaissais pas, puisque moi, j'ai fait toute ma scolarité dans un village en classe unique. Et du coup, je me suis trouvée devant une double incompréhension, d'une part de la relation à mes futurs instituteurs qui avaient une vision du métier qui était, je dirais, à l'inverse de celle que j'avais reçue d'une toute une branche de ma tradition familiale, qui était quand même que c'est le plus beau des métiers, et que pas du tout, considéraient que c'était le pire. Et puis d'une autre incompréhension qui était que toutes les références empiriques de mes savoirs scolaires sur le fonctionnement de l'école primaire était complètement battu en brèche par la découverte traumatisante pour moi de l'école Paul Bert à Sarcelles, si j'ai bonne mémoire, une immense école de briques rouges où il y avait, je crois, 17 classes, et où, quand je suis entrée pour aller visiter un normalien en stage, à l'époque un stage de 3 mois, le directeur m'a dit, vous allez voir, on est monté au 3e étage, on regardait la cour en bas où ça s'agitait comme dans un boudin de culture. Il a donné un coup de sifflet et d'un seul coup, pouf, tous les élèves sont restés à faire la statue. Et après, 2e coup de sifflet, et les élèves en marchant ont rejoint leur rang. 3e coup de sifflet, les rangs ont commencé à s'ébranler dans un ordre républicain. Et ça, j'ai regardé ça, c'était l'école caserne que décrivait à l'époque les énormes livres de Vasquez et Oury. Et je pense que c'est cette double sentiment d'étrangeté dans la découverte d'un lieu dont j'imaginais qu'il me serait familier qui a fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, par rapport à ma propre ignorance, finalement, toutes les lectures, alors on se précipite sur les lectures, les Bourdieu, Passeron, Foucault, Guy Vincent, La forme scolaire, Sniders sur la naissance de l'école telle qu'elle se perpétue. Alors, les frères des écoles chrétiennes, les Baudelot et Establet. J'avais été en TD de sociaux avec Roger Establet à la Sorbonne. Je vous dis, j'ai fréquenté beaucoup de boulanges. J'avais fait aussi une enquête sociologique sur les grandes écoles avec Bourdieu. Donc je croyais que je savais beaucoup de choses sur les théories de l'école. Et tous mes savoirs théoriques, dont je pense que j'avais à peu près fait le tour de ce qui se faisait de mieux, étaient complètement inopérants pour tenir un discours qui ait une quelconque pertinence, je ne dis pas validité scientifique, mais pertinence pour les groupes normaliens que j'avais en face de moi. Qui me posait des questions du genre, madame, alors il faut leur faire apprendre par cœur des récitations ou pas aux élèves? Alors je leur disais, spontanément, je le ferais. Oui, mais pourquoi? Il faut qu'on dise pourquoi. Ah, bon, je vais chercher. Alors je dépouillait toute la bibliographie existante en psycho, lingua, rien, pas une seule réponse à cette question. Donc du coup, j'ai fait, un jour j'ai trouvé que j'avais quand même eu un usage dans ma vie d'Emmanuel Kant, qui était quand même pas rien, un usage pratique je veux dire, qui me permettait de répondre à mes collègues psychopédas, comme on disait à l'époque, qui doutaient de mes orientations, qui était qu'il fallait avoir une position de jugement pragmatique, qui est que quand un médecin doit opérer un malade, il ne peut pas attendre que tous les savoirs constitués sur les symptômes de maladie soient réunis pour l'opérer. Et qu'on est bien obligé de faire dans l'urgence, avec ce dont on dispose, c'est ce que Pernoud, des années plus tard, a dit, agir dans l'incertitude et dans l'urgence. Voilà. Et que c'était ça la pédagogie, et que je ne savais rien, que j'avais toute ma vie pour apprendre. Mais il me semblait bien que ce que j'avais à apprendre prioritairement, c'était des choses du côté des praticiens et du côté de la pratique. Et que la manière dont était constitué le savoir intellectuel ne convenait pas, alors la socio, la psycho en l'occurrence, c'était ça. Et puis, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait deux disciplines qui, elles, offraient une autre orientation qui pouvait ressembler à ce que étaient les savoirs pratiques, parce qu'elles réunissaient dans un même objet des choses tout à fait hétérogènes comme dans la classe. Et c'était l'ethnologie et l'histoire. Donc dans l'histoire, vous êtes dans des situations non réversibles où on doit effectivement penser comment interviennent en même temps, selon des événements particuliers, des choses qui sont sociales, des choses qui sont des individualités psychologiques, des choses qui sont des données économiques, des choses qui sont de l'institutionnel, des choses qui sont du politique, des choses qui sont des bêtises des individus, le fait qu'on sache qu'on ne sache pas. Et que d'une certaine manière, aller voir dans l'histoire comment les institutions scolaires avaient fonctionné me permettrait de repenser la conjoncture présente pour en parler avec mes normaliens, puis plus tard normaliens et normaliennes, puis plus tard les deux gastites et puis les licenciés, etc. Enfin bon, les jeunes, alors les FP, les PE et puis les masterisés qui vont venir. En pensant, c'est ça l'intervention dans la classe. C'est définir son espace d'action qui est toujours très limité. Et il faut connaître tout ce qui est l'environnement qui constitue les contraintes dans notre espace d'action. Sinon, on se bat contre des moulins, alors on mène des discours flambants et enthousiastes. Et quelquefois, pour certains individus, ça marche, comme vous savez. Mais ça ne veut pas dire que ça permet de mettre en place des processus de formation, c'est-à-dire réitérables pour des novices. Donc il faut connaître l'espace des déterminations. Et il faut en même temps maintenir en permanence, et c'est ça qui était difficile dans les années 70, c'est l'espace d'indétermination qui est celui de la liberté des acteurs. Sinon, on fait une sociologie des agents et on peut dire que l'école fonctionne indépendamment des gens qui sont dedans. Et comme disaient mes normaliens dans les années 70, on a les chiens de garde. Bon, ben alors, vaut mieux faire flic, c'est mieux payé, et puis on a des armes. Ou alors, si on estime que ce que fait l'école, c'est de la répétition de la reproduction sociale et que c'est mal, eh bien, il faut être cohérent, il faut donner sa démission. Et j'ai dit, j'ai le sentiment intime profond, mais non justifié, que ça vaut la peine d'être enseignant et que l'école n'est pas seulement l'agent de la reproduction sociale, qu'il y a un espace d'action qui fait qu'il faut continuer d'apprendre à alphabétiser les enfants. Il faut continuer de les introduire dans les savoirs. Donc, c'était ça, mon entrée historique, pour savoir comment, dans la longue durée, on peut aujourd'hui définir, dans des situations qui sont changeantes, aujourd'hui, il y a probablement une mutation énorme qui est en train de se passer, ce qui fait notre difficulté à penser les choses, c'est cet espace d'action des acteurs, sans s'illusionner sur la largeur de cet espace, mais sans non plus produire des savoirs qui empêcheraient de penser la réalité de cet espace, puisque c'est le lieu de notre travail de formation. Alors maintenant, je viens sur la remise en cause de la vulgate historique qui a été construite dans ces années structuralistes, donc Guy Vincent et bien d'autres, et je dirais d'une certaine manière, je vais remettre en cause le schéma il faut détruire le modèle de Jean-Baptiste de La Salle. D'abord, il n'y a pas à le détruire, il est détruit. Je vais vous expliquer pourquoi. Et deuxièmement, il n'était pas du tout, contrairement à ce qu'un schéma de l'époque a pu en dire, une collectivisation annihilant la relation personnelle aux individus. J'ajoute, pour faire bonne mesure, que je ne connais aucun système d'enseignement, même en pays totalitaire, qui ait aboli cet espace dans la pratique. Le problème en histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous morts. Les lieux ne sont plus présents. Il nous reste quoi? Des discours. Et reconstituer des pratiques à travers des discours, ça, c'est un boulot très passionnant, très difficile. Et dans l'ensemble, on peut bien dire que tous les gens des années 70, ils ont reconstitué la pratique en pensant qu'elle était conforme au discours. Mais ça, c'est exactement la même erreur que font les jeunes profs d'école normale de mon temps, moi par exemple, aujourd'hui, dans d'autres, c'est procéder par entretien avec des enseignants pour savoir ce qu'ils font dans la classe. Si vous n'êtes pas allé dans la classe, vous croyez immédiatement un certain nombre de choses à partir des discours qui vont vous faire inférer des choses qui ne sont absolument pas là. Par exemple, ma grande expérience inaugurale de jeune prof DN, c'était un test du directeur de l'école d'application de la zone difficile de Versailles où je travaillais, c'était, il m'a dit, oh, moi ma pédagogie c'est bien simple, hein, c'est coup de pied dans le cul et verbe à conjuguer. Monsieur Michel, je veux dire qu'il était très respectueux. Alors, évidemment, j'apprends par la bande qu'il est à l'éclat de certificat d'études, qu'il est adoré de ses élèves, qu'il se ferait tuer pour lui. Donc, on se dit, il y a un truc entre pourquoi il dit ça et qu'est-ce qu'il fait réellement. Et voilà, le travail d'interprétation dans la construction des savoirs, pour moi, ne peut pas se faire sans qu'il y ait, à un moment donné, d'observation directe des pratiques. Et si vous n'avez pas construit une culture des pratiques en observation directe, alors, vous ne pouvez pas interpréter les tests historiques, vous ne pouvez pas interpréter les discours officiels, vous ne pouvez pas interpréter les changements qui sont des changements tantôt réels, tantôt des changements supposés. Et c'est un point sur lequel je me sens, en porte-à-faux par moment avec mes collègues universitaires, c'est que je me rends bien compte que la manière dont les praticiens élaborent leur propre discours sur leur propre pratique sont contaminés en permanence positivement et négativement par la circulation des discours institutionnels, soit les discours officiels, soit les discours scientifiques. Et qu'ils cherchent dans le langage de la tribu, des multiples tribus, des mots pour le dire, mais que ce qui relève quelquefois de la singularité de leur propre parcours est écrasé par ou occulté par ce qu'ils disent. Et mon grand problème dans toute cette vie professionnelle a été de trouver des mots pour le dire, pour être porte-parole de praticiens experts. Alors, j'en viens maintenant à une description rapide des quatre grands changements qui, depuis, on va partir de Jean-Baptiste de La Salle ou des collèges du XVIe siècle, ont eu lieu jusqu'à maintenant pour montrer comment la description que je fais est d'un certain point de vue. Et le point de vue, ça a été de dire comment, à l'intérieur d'un espace institutionnel qui est politique d'un temps, on a produit une école qui a conjoint toujours du collectif, de l'individuel, et j'ajouterais une gestion personnalisée, mais sous des contraintes sociales qui ont évolué à chaque fois. Et puis on vient aujourd'hui où on en est et qu'est-ce que j'ai tiré de cette forme, de cette évolution des formes scolaires pour dire que l'école se transforme énormément. Pour moi, le problème, c'est pas qu'elle ne change pas, elle n'arrête pas de changer et énormément. La question, c'est de savoir qui pilote ces changements. et qu'est-ce qu'ils produisent de manière ambivalente. Hein. Et la deuxième chose, c'est avoir dans les stabilités individuelles de développement des personnes, le changement n'est pas en soi bénéfique. Hein. Il y a des changements catastrophiques dans notre environnement. Donc le problème n'est pas de vouloir changer pour changer, mais de savoir qu'est-ce qui est aidant et pour les enseignants et pour les élèves, et qu'est-ce qui constitue au contraire un obstacle pour les enseignants et pour les élèves. Alors, je repars de cette forme numéro 1, qui n'est pas la forme, comme ici vous êtes secondaire et primaire, je dois vous dire que moi je suis très mauvaise pour le second degré. C'est un monde étranger pour moi. Et c'est seulement de manière extraordinairement récente, à cause du collège, qui fait partie maintenant de l'école obligatoire, donc de mon territoire, puisque je suis sur cette perspective de l'école du peuple, de l'école pour tous, que j'ai été obligée de penser la manière dont se fait l'accrochage. Alors en 70, 1970, autour de la loi Habit 75, du collège unique, et donc du coup de remonter dans la longue tradition scolaire pour essayer de voir comment ces deux systèmes institutionnels totalement disjoints, formation des élites, formation du peuple, ont dans la longue durée été amenés à se rencontrer, et pourquoi différemment selon les pays d'Europe, et pourquoi ça grince fortement en France. Alors première chose donc, les collèges pour la formation des élites. Alors je vous raconte comment ça se met en place, comme ça vous en souviendrez éternellement. C'est très facile, mais j'ai mis du temps à trouver ce discours simple. Les jésuites sont créés comme un ordre missionnaire pour reconquérir l'Europe à la catholicité après le grand schisme Luther, Calvin et compagnie, et guerre de religion et tout ce qui s'ensuit, et aussi pour conquérir les Indiens d'Amérique une religion qu'apparemment aucun ange n'est venu leur révéler dans leurs Amériques profondes. Donc on est dans une perspective missionnaire. Ignace de Loyola arrive à Paris, suit des études au collège Sainte-Barbe, à deux pas de l'ancienne INRP, c'est dans la rue qui descend là, et il rentre en sixième, il est espagnol, il a décidé de fonder un ordre, et il refait toutes ses classes, sixième, cinquième, quatrième, troisième, dans les collèges existants du temps, apprendre les classes de la sixième à la troisième, on apprend à lire et à écrire en latin, et ce sont les classes de grammaire. En seconde, on apprend à lire et à faire de la poésie latine et un peu d'histoire, le récit. Alors on lit Ovide, Tite Live, etc. Et puis la grande classe sérieuse, c'est la classe de rhétorique, qui correspond à la première, celle où on apprend à lire Cicéron. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de faire des sermons. Et pour faire des sermons, il faut connaître l'éloquence, les modes de fonctionnement de l'organisation des discours. Et puis après, il y a les classes de théologie pour ceux qui veulent devenir Jésus. Ils fondent des noviciats. L'ordre est d'emblée un ordre international, européen, mondial. Il se développe extraordinairement vite. Et il décide, parce qu'il y a une demande sociale forte, d'ouvrir. Il adopte cette formule-là. Il faut apprendre ce qui est la culture des élites du temps, c'est celle-là. Et la culture des clercs du temps, c'est celle-là. Il ouvre ses noviciats à des élèves laïcs qui ne deviendront pas jésuites. Payants, bien sûr. Et il propose aux enfants des écoles confiés par leurs parents de suivre exactement la culture de formation des futurs jésuites, jusqu'à la classe de rhétorique, parce qu'au-delà, la théologie, non, ça s'est réservé aux futurs professionnels de l'ordre. Alors, vous sentez comment il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'une culture construite pour former des futurs missionnaires à travers les humanités latines et grecques classiques devient la culture partagée des élites d'un temps et des clercs, des savants de l'époque qui sont ceux qui parlent latin et grec. Et c'est la même chose en pays protestants. Quand vous regardez le corpus de Oxford, de Cambridge, de Wittenberg, des universités protestantes, c'est le même corpus de référence pour tout le monde, Tite Live, Cicéron, pour tout le monde. Et donc, vous allez avoir Horace, Cinna, toutes les pièces classiques, Jules César, de Shakespeare. Quand vous regardez les références profanes du temps, elles sont entièrement partagées. Tout ça concerne 2% de la population. Par ailleurs, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde devienne chrétien. Il n'y a pas que les élites intellectuelles qui doivent, dont les âmes doivent être sauvées par la vérité chrétienne, catholique ou protestante, ça dépend de quel côté on est. Donc, il faut mettre en place des écoles pour les petits-enfants, pour tous les enfants. Alors, c'est plutôt dans les pays protestants. Et l'important, c'est qu'ils leur apprennent de quoi ? C'est de pouvoir lire leurs prières à la lettre. Parce que si on se trompe, on fait une hérésie, hein. C'est quand même assez dangereux. Donc, il faut qu'ils sachent lire. En tout cas, il faut qu'ils sachent céder du texte immuable du livre. Le retour à la parole de l'Écriture sainte pour Luther. D'où les traductions, avec des discussions entre experts énormes, pour pouvoir produire toute une série de livres faciles à lire pour les gens du peuple. En allemand, en anglais, en suédois, en danois, même en français, grâce à Calvin, qui est quand même un des grands fondateurs de la langue française de l'époque. Et comment est-ce qu'on va alphabétiser les enfants ? Alors, Concile de Trente, les catholiques disent qu'il faut faire la même chose dans les pays catholiques. On va avoir deux instruments, un abécédaire et un catéchisme. Le catéchisme est toujours dans la langue locale. Les prières sont tantôt dans la langue locale en pays protestant, tantôt en latin dans les pays catholiques qui se trouvent être des pays romans, sauf en Bavière. C'est-à-dire où quand même Paternoster et Painos, ça se ressemble, on peut faire des relations. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste de La Salle qui fait que c'est un révolutionnaire? Jean-Baptiste de La Salle invente une alphabétisation en français. Malgré la difficulté que représente la langue française par rapport à la langue latine qui est très régulière du point de vue des correspondances lettres-sons, il se rend compte que le principal, c'est que les enfants sachent les prières. C'est-à-dire que une de mes hypothèses en histoire, c'est que les gens sont normaux en général. On trouve des fous partout, mais de manière relativement stable et minoritaire. Et que quand il y a une modalité d'enseignement, un rite social, partagé longtemps et à la satisfaction d'ensemble de la population, perdure, et qu'on le trouve, nous, complètement marteau, c'est qu'on ne le comprend pas. C'est pas que les gens étaient fous, c'est nous qui sommes ignorants. Et la manière dont est décrite la modalité de Jean-Baptiste de La Salle apparaît folle vue d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il propose ? 9 gradations d'apprentissage. 1, on apprend l'alphabet, d'accord. 2, on apprend les syllabes, be, peu à pas, peu hippie, etc. Un tout petit, très peu de syllabes, pas sur la totalité des syllabes. Et ensuite, on passe sur la lecture du Notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père, voilà. Marteau, comment on peut apprendre à lire de cette façon-là? D'autant qu'en plus, pour bien dire la vérité, les enfants, il y a longtemps qu'ils le savent, le Notre Père. L'enseignement collectif à cette époque, c'est l'enseignement oral où tout le monde récite en même temps, à l'église et dans la salle de catéchisme avant. C'est comme ça qu'on apprend tout. On apprend les hymnes, on apprend les prières, on apprend le culte, on apprend les rituels. Et le temps d'apprentissage de la lecture est un temps qui se fait sur les petits abécédaires qui sont des psautiers, où il y a 7 ou 8 prières, et où on apprend à décoder les prières. Et il va établir une gradation dans ses classes pour permettre à 50-60 enfants de coexister sans entretuer, où on a une part d'enseignement collectif. C'est la récitation orale des prières, du catéchisme, des cantiques et de tout ce qu'on voudra. Le catéchisme, les petits qui ne savent pas encore écoutent les grands qui font les questions et les réponses. Et une part d'enseignement, alors, individualisé, et non pas personnalisé pour le moment, qui est que, à n'importe quel moment qu'un enfant arrive dans l'école, on peut savoir exactement ce qu'il sait du point de vue de ce processus de déchiffrage, et il va trouver un banc où on va le mettre et où on va pouvoir travailler à améliorer son apprentissage. Il n'y a que trois niveaux. C'est où l'enfant est ignorant, où il est médiocre, c'est-à-dire ignorant, il ne sait rien. Où il ne sait pas faire l'épellation, il ne sait reconnaître aucune lettre. Il est médiocre, c'est-à-dire qu'il sait réussir un certain nombre de choses, mais pas tout. Ou il est parfait, c'est-à-dire qu'il sait, ça y est, il a rempli le programme. S'il a rempli le programme, eh bien, il peut passer dans le banc supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dans la classe de Jean-Baptiste de La Salle, on a un groupe d'enfants stable, mais on a pour les classes de lecture un processus, je dirais, de pédagogie par objectif, qui fait que chaque enfant monte à sa vitesse à l'intérieur de la... Est-ce que ce n'est pas personnalisé? Bien sûr que si. J'ai lu les offres complètes de Jean-Baptiste de La Salle, c'est 2300 pages, et les trois quarts sont tenus par la correspondance de Jean-Baptiste de La Salle. Beaucoup de choses, je n'ai rien compris, parce qu'une correspondance, si vous ignorez l'interlocuteur, etc. Mais une chose que j'ai bien compris, c'est tous les conseils qu'il donne, où il engueule les maîtres, il n'y a pas d'autre mot, et où il négocie le problème de la personnalisation. C'est-à-dire comment il faut faire, régler un certain nombre de cas. Les enfants doivent passer... Son objectif, c'est qu'il reste à l'école au moins 3 ans, parce qu'en 3 ans, on peut former un chrétien. Alors, le problème, c'est les enfants qui sont trop bons, ceux qui vont très vite, qui en 6 mois auraient franchi le parcours. Comment on va faire pour les ralentir, ceux-là? Parce qu'ils ont besoin de faire 2 liturgies, au moins, pour les préparer. L'examen de sortie, c'est quoi? C'est la communion solennelle. J'ai eu beaucoup de mal, peut-être vous aurez aussi, à penser que le premier examen PISA du monde, c'est... La communion solennelle en pays catholique à 12 ans, ce qui fait une scolarisation courte, hein. C'est la confirmation en pays protestant, ce qui fait une scolarisation qui finit à 14 ou 16 ans en pays protestant, ce qui vous explique pourquoi les écoles moyennes ont eu beaucoup moins de mal à s'implanter et à se généraliser dans les pays nordiques. C'est quand même intéressant. Et en Suède, par exemple, un enfant qui ne réussit pas à l'examen qui lui permet d'avoir la confirmation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas réciter son catéchisme et montrer qu'il sait lire les prières, eh bien, il ne devient pas citoyen, il ne peut faire aucun acte public, il ne peut pas rendre témoignage dans un procès, il ne peut pas faire de testament, il ne peut pas se marier. C'est-à-dire qu'il est hors société. Ce qui veut dire, vous voyez la pression pour que 90% d'alphabétisés en Suède à la fin du XVIIIe siècle, sans école. Parce qu'on est un pays tellement rural que c'est impossible de faire des écoles. Mais les pasteurs contrôlent que les parents font le travail. Ça veut dire qu'il peut y avoir des processus individualisés d'apprentissage sans mise en place de formes scolaires. Dans les pays catholiques, ça ne va pas être comme ça. Ça va être à travers des modalités qui vont prendre en compte, dans l'ordre, les savoirs collectifs de la vie religieuse. On emmène les enfants à la messe, on leur apprend comment se tenir. Bon. Les savoirs individuels qui permettent de réussir l'examen PISA communion solennelle. Et au XVIIIe siècle, les curés jansénistes, ils sont terribles, hein, parce qu'ils élèvent le niveau. Ils considèrent que les enfants ne savent pas expliquer bien ce que c'est la transsubstantiation au moment où ils vont recevoir la communion. Conclusion, ils les font doubler, tripler, quadrupler. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Ils ne veulent pas qu'ils fassent leur communion. Et un enfant qui n'a pas fait ce communion ne peut pas entrer en apprentissage. Je ne vous dis pas les parents. Donc quand il y a une mission jésuite qui passe et qui, eux, la donne plus volontiers, on se précipite. Hein. C'est-à-dire que vous avez des concurrences de fonctionnement et les enfants qui sont comme ça, tenus par la religion, par leur incapacité de savoir religieux, en dehors de l'intégration de la société des adultes, ça va faire toute la France déchristianisée du Sud-Ouest. C'est extraordinaire, ça se voit aujourd'hui dans ce qui a été les votes radicaux socialistes 3 siècles plus tard. Et moi, mon idée, c'était ceux que l'école humilie, vont-ils pas rejeter l'école et les savoirs de l'école de la même manière que ceux que la catholicité a humiliés ont rejeté les savoirs de la catholicité? Quel sort on fait aux enfants qui ne peuvent pas entrer dans les savoirs qui sont considérés comme les savoirs de base de la nécessité sociale, de la nécessité sociale du temps? Et Jean-Baptiste de La Salle dit très bien, bien sûr qu'il faut garder les enfants au moins 3 ans, mais si on ne peut pas, eh bien on va aménager le cursus pour eux. C'est très facile. Par exemple, un enfant qui doit partir, eh bien on va sauter la civilité, on va sauter les prières en latin, et on va aller directement à lui faire lire ce qui est le point le plus important pour ses parents, c'est les textes manuscrits qui sont les textes d'embauche, de bail, de commandes, les textes de sociaux, les textes fonctionnels, parce que les parents, c'est ce à quoi ils tiennent le plus, c'est ce qu'ils ont mis en fin de cursus pour tenir les enfants dans l'école de Blondeau-Rosemont. Donc cette école, dans sa pratique, est une école qui négocie. Dans sa théorie, la date qui vous a été donnée, qui est excellente, c'est celle de la publication de ma conduite des écoles, le texte théorique de Jean-Baptiste de La Salle, elle est un texte de référence pour des maîtres qui sont des maîtres non formés, qui sont d'anciens élèves de milieu populaire, les frères. Alors, c'est un point que, auquel m'a fait penser l'intervention tout à l'heure, c'est que les frères ne sont pas des prêtres, ils ne sont pas des confesseurs. C'est-à-dire que eux respectent l'intimité des enfants. Alors que chez les jésuites, c'est très différent. Dans le collège, vous avez votre confesseur parmi les professeurs référents. Mais les jésuites mettent et les autres ordres, oratoriens, toute une série d'autres, ça ne doit pas être votre professeur principal qui est votre confesseur. C'est-à-dire que là aussi, il y a des règles de prudence et de déontologie sur ce qui relève de la vie intime, privée, et sur lesquelles on doit apprendre les enfants à s'auto-examiner, parce que c'est quand même ça, la naissance de la confession, et en même temps, la règle de la vie institutionnelle qui met le groupe dans un rapport d'autorité et de soumission à l'égard d'une parole magistrale. Ça, c'est la première étape avec donc deux mondes séparés. Deuxième étape, alors là, c'est très différent puisque c'est une étape qui a été non perçue, je dirais, par la sociologie des années 70. C'est pour moi, pour le primaire, la grande révolution, c'est pas Jules Ferry, c'est 1860, c'est-à-dire la fin du Second Empire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une révolution technologique gigantesque qui est celle de l'arrivée, je dirais, de ardoises, crayons, plumes métalliques, matériel à disposition d'enfants très jeunes. Jusque-là, dans Jean-Baptiste Lassalle, on apprend à lire, puis quand on sait lire, à écrire et à compter. Donc, à écrire et à compter qu'à très peu d'enfants, ceux qui restent au-delà des 3 ans d'études. Pourquoi ? Parce que la plume d'oie, vous essayerez, ça demande, à 6 ans, on ne peut pas. Et en plus, il faut la tailler tout le temps, etc. Donc, c'est la révolution de l'arrivée d'instruments de travail utilisables par des enfants très jeunes et qui libèrent le maître de l'accompagnement permanent dont on n'appuie pas tant, hein, qui va permettre d'apprendre à lire et écrire en même temps. Et vous voyez toute la pédagogie de la forme scolaire primaire révolutionnée dans les années 1860-1880, c'est-à-dire que les républicains en héritent. Alors eux, ils vont pouvoir, parce qu'ils héritent de ça, mettre en place un corpus d'enseignement disciplinaire qui fait que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture n'est plus la finalité de l'école, elle est la condition, le démarrage de l'école, est la condition de possibilité de l'apprentissage des autres savoirs qui s'appellent l'histoire de la France, la géographie de la France, la littérature de la France. Bon, on va peut-être commencer à prendre un petit peu de Victor Hugo. Corneille et Racine à l'époque. Et troisième point, des savoirs universels qui sont les sciences, les savoirs modernes. Et on sort la religion de l'école, et tout le temps libéré par le catéchisme, ça fait de la place pour mettre les choses à la. Et c'est un des points qui m'a frappé, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi au fait que l'introduction d'un nouveau savoir dans l'école ne peut se faire confortablement et sérieusement que si on en élimine un autre. Alors, récemment, on a éliminé la couture, le niveau est devenu lamentable pour les filles, je ne sais pas si vous avez mesuré, le niveau est proche de zéro, ma fille s'est très mal enfilée une aiguille, elle est incapable de faire un ourlet, tout le monde s'en fout. Et pourtant, c'est grave, parce que c'était une tradition populaire extraordinairement forte, je ne vous dis pas pour la cuisine, ce que c'est devenu. Mais vous sentez que ces savoirs qui étaient considérés comme des savoirs populaires présents dans l'école de Jules Ferry, finalement, pour pouvoir faire face à la technologie, il faut qu'on élimine. Et vous savez que les savoirs sont disposés différemment dans une échelle de la hiérarchie des savoirs. C'est qu'il y en a des nobles et que quand vous supprimez le grec, l'option grecque dans un collège, vous êtes sûr d'avoir une page de Madame de Romilly dans le monde, alors que quand on supprime la couture dans les écoles primaires, il n'y a rien. Il y a tout simplement les profs de couture qui disent comment on va nous réinsérer. Mais si on nous paye une année de formation, on veut bien devenir des profs de techno que vous voulez faire. Ça nous, en plus, c'est valorisant puisqu'on monte dans l'échelle de la considération sur le niveau des échanges. C'est faux du point de vue de la réalité des pratiques. Et vous voyez bien que les disciplines sont inégales entre elles. Il y a des rapports de pouvoir entre disciplines. J'ai mis longtemps à comprendre que c'est ce que voulait dire Foucault quand il disait « qu'est-ce que c'est un dispositif ?» Un dispositif, c'est ce qui relie des savoirs et du pouvoir. Et à l'école, maths français, c'est pas le même pouvoir que musique, gym. Même si pour les enfants, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas le rapport d'intérêt ou d'importance pour les enfants ni pour les... Mais c'est par rapport à la suite de la scolarité. La musique ne fait pas redoubler, à ma connaissance, pour le moment. Donc ça veut dire que les stratégies ne peuvent pas être les mêmes pour les modalités d'enseignement. Alors, la grande réforme pour le secondaire que j'avais négligée et qui maintenant s'est rappelée à mon souvenir pour le problème du collège aujourd'hui, c'est la réforme de 1902. Parce que on pourrait dire que c'est la réforme de 1902 qui fait disparaître le modèle des humanités qui remontait à avant, enfin, au moment des Jésus, au XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que le modèle du secondaire qui remonte, c'est un modèle de l'encadrement permanent des études des élèves. Ce n'est pas du tout un modèle où on fait cours. On ne fait pratiquement pas cours. On fait deux fois deux heures de classe par jour. Il y a un prof de sixième, un prof de cinquième, un prof de quatrième, un prof de troisième, c'est un instit en gros, hein, qui fait latin grec et tout ce qui va avec. Par exemple, l'histoire, la géographie, ça se fait en expliquant les textes de latin grec. Et l'important, c'est de faire faire aux enfants, alors, la récitation de ce qu'ils ont appris la veille, les lectures et les écritures des textes, les corrections des thèmes et des versions, puisque c'est exactement là-dessus. Et en dehors de ces 4 heures de cours par jour, 6 fois par semaine, avec une heure de devoir surveiller, ils ont des études où ils sont encadrés par des répétiteurs qui sont des futurs profs et qui vont leur surveiller. Tout le monde sait bien que des enfants normalement constitués n'ont pas du tout envie de travailler spontanément. Et que s'ils n'ont pas un répétiteur, plus tard, avec l'époque romantique au 19e, les mères de famille se dévouent et beaucoup les pères de famille rentiers commencent à dire que c'est très bien de faire ça. Mais c'est un accablement. Dans la plupart du temps, il vaut mieux un professionnel qui s'en occupe, parce qu'un enfant normalement constitué, il va jouer. Il ne va pas travailler, il ne va pas faire du latin. Et quand vous regardez le lieu où on peut le mieux comprendre qu'est-ce que c'était le mode de fonctionnement de ces classes, c'est les classes prépa aujourd'hui. En gros, les classes prépa aujourd'hui, elles ont conservé ce mode de fonctionnement-là. Que fait un prof de prépa ? Il fait faire des exercices, il corrige des devoirs, il fait faire des colles. C'est-à-dire un entraînement individualisé, alors personnalisé ou pas, ça c'est à voir. Après, ça sera dans la flexibilité des modes de fonctionnement. Individualisé, oui. Le coût d'école en France, vous savez que c'est, je ne sais plus combien c'est par heure et par individu, mais qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir prendre la parole à l'oral du concours de manière relativement rodée, quel que soit le sujet, en trois parties, comme j'ai appris et que j'ai mis beaucoup de temps à me défaire, c'est cet exercice préalable. De la même manière, les écoles, la préparation au concours pour les écoles d'ingénieurs, c'est être capable de faire en gros toute la classe de problèmes qu'on a vu. Il n'y a pas d'invention, il y a des variantes, mais des variantes sur des moules qui sont des moules bien constitués et qui sont ceux qu'on a acquis dans les modes de fonctionnement de ces écoles-là. La réforme de 1902 est une réforme, je dirais, démocratique. C'est merveilleux, comme toutes les fois qu'on démocratise et qu'on monte le niveau, on produit exactement la mise en place de situations pédagogiques qui éliminent ce qu'on veut faire entrer, ou en tout cas qui sont discriminantes à l'égard de ce qu'on veut faire entrer. La grande réforme de 1902, c'est mettre les modernes à égalité des classiques, c'est-à-dire permettre qu'ils arrivent au bac, eux aussi. Et les plus hostiles à ça sont les profs de lettres, parce que les profs de lettres ne pensent pas qu'on puisse... apprendre le français sans référence au latin et au grec. Et il n'y aura pas d'agrègue de lettres modernes avant les années, fin des années 50, 59, 60, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne peut pas apprendre le français sans référence à ce qui est la source de notre littérature sacrée. même si depuis les années 1970, il y a bien plus d'enfants dans les filières sans latin que dans les filières à latin. Mais les seuls profs qui enseignent sont des profs latinisants et grecisants. Le grand problème, c'est, est-ce qu'on peut, hellénisant, est-ce qu'on peut apprendre, faire un commentaire de texte du français sur le français, puisque tout le monde comprend le français? Comment est-ce qu'on peut inventer une pédagogie du français dans, la langue, dans sa langue? Alors, du coup, vous comprenez pourquoi on apprend beaucoup plus de français dans les classes classiques, où on fait du latin et du grec. Pourquoi? Parce qu'on fait toute la grammaire et toute l'orthographe dans le travail de la traduction, d'aller-retour d'une langue à l'autre. Alors, les pays en Allemagne, ils ont très bien compris que si on voulait maintenir l'avantage de cette pédagogie spontanée de l'interlangue, il fallait faire un groupe langue vivante, romane, allemand. C'est-à-dire que vous allez avoir des pays qui vont organiser des bivalences qui vont être l'équivalent de cette fameuse trivalence français, latin, grec, qu'on ne rabatte pas les oreilles des gens spécialisés, ça n'existe pas. Les grands lieux, c'est histoire géo, ce n'est pas une spécialité. Physique, chimie, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas du point de vue scientifique. C'est-à-dire que l'organisation des spécialités secondaires est un pur héritage conjoncturel qui s'est cristallisé et qui est devenu une identité professionnelle intangible aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sait que l'enseignement... Alors, on va constituer des modalités d'apprentissage de la lecture second degré sur les textes du patrimoine, mais en perdant progressivement les répétiteurs, c'est-à-dire ceux qui font l'encadrement des études. Et Philippe Savoie, qui a fait l'étude du problème, montre que c'est dans les années d'après-guerre, baby-boom, que tous les adjoints d'enseignement qui étaient encore des répétiteurs d'études pour aider les élèves à faire leurs devoirs dans les classes de 6e, 5e et 4e, en dehors des heures de cours ou pendant le temps de l'internat, sont tous transformés en 2 ans en profs à plein temps parce qu'on manque trop de profs. Et que d'une certaine manière, au moment où le collège se démocratise, la forme scolaire qui se met en place, c'est la forme scolaire du prof qui fait cours, c'est-à-dire la forme qui réduit le temps d'enseignement à la totalité, finalement, de l'acte pédagogique. Et du coup, ce qui disparaît de l'imaginaire des enseignants et des prescripteurs, c'est le travail des élèves. Et qu'on est aujourd'hui à la course de retrouver comment reconstituer un accompagnement du travail des élèves qui avait toujours été prévu comme étant le cœur même de cible de l'enseignement secondaire du temps où il formait 2% d'une classe d'âge, c'est-à-dire où il était complètement élitiste. C'est-à-dire qu'au moment même où on démocratise et où on a des enfants qui auraient encore plus besoin d'être accompagnés qu'avant, on supprime les aides pour pouvoir transformer tout le monde en prof, parce que c'est aussi ce qui est le plus légitimement du point de vue symbolique. Dernière transformation, je reviens sur ma forme primaire, c'est le collège habit. Qu'est-ce qui change? Pourquoi le primaire change fondamentalement avec le collège habit? Parce qu'il perd ses EPS, il perd son primaire supérieur. C'est-à-dire qu'avant, c'était un même corps enseignant qui s'auto-promouvait, si vous voulez, à l'intérieur, même si depuis Jean Zay, les programmes étaient les mêmes. En gros, les enfants avaient des modalités pédagogiques de travail qui étaient identiques, même s'il y avait une spécialisation des instituteurs en prof de sciences ou prof de lettres. Mais en gros, le partage disciplinaire se faisait en référence à des pédagogies du primaire où le travail se fait dans la classe. C'est ça, les pédagogies du primaire. C'est à l'intérieur de la classe qu'on fait les exercices, qu'on est sur le dos des élèves, en permanence dans le primaire. Et ça, on le sait, parce qu'autrement, les enfants ne font pas. On ne fait pas cours aux élèves, on fait classe. Et faire classe, c'est faire tenir la classe. Dès que le primaire devient l'antichambre du secondaire, vous voyez débouler dans le primaire les modèles de référence auxquels il faut habituer les enfants. Par exemple, l'arrivée des cahiers de texte, alors que dans le primaire, la tradition, c'est « je vous dis oralement ce que vous avez à apprendre pour demain, c'est une leçon en général, puis relire votre livre de votre page de lecture ». Vous voyez arriver un changement très important dont je n'avais pas mesuré c'est à la place des cahiers du jour, les classeurs. Qu'est-ce qui caractérise les classeurs? C'est le découpage disciplinaire. Alors, les gosses doivent se retrouver. C'est le classeur de français. Alors, est-ce qu'on a un orthographe d'usage, ou un orthographe grammatical, ou un vocabulaire, ou en production d'écrit, ou quoi ? C'est-à-dire que le système de découpage conceptuel, il est matérialisé par ce petit dispositif dont il faut que les enfants s'habituent à la manipulation, qui est une manipulation catégorielle et non plus chronologique. Alors que le cahier du jour donnait d'une certaine manière la visibilité du travail ordinaire. Et le deuxième changement qui a lieu, c'est que le cahier du jour était toujours une représentation de deuxième temps. Il y avait brouillon, ardoise, correction individuelle ou collective, et là il y avait personnalisation. Non, ça tu peux trouver tout seul, bon ça je te le réécris. Et ce que présentait l'élève, c'était le travail qu'il avait recopié au net à l'aide de son propre travail et de la correction. En gros, ça valorisait l'investissement dans le travail. Un élève, même pas très bon du point de vue intellectuel, s'il s'appliquait bien, s'il suivait bien, s'il faisait bien les choses, pouvait présenter un cahier du jour propre et qui méritait, alors sauf en dictée, des notes correctes. C'est-à-dire qu'il y avait une valorisation scolaire de l'investissement dans le travail, ce qui est conforme à l'idéologie républicaine, et ce qui est conforme à l'idéologie de Jean-Baptiste de La Salle, elles sont communes. On doit toujours sanctionner les enfants pour leur mauvais comportement, jamais pour leurs résultats scolaires, parce que ça, ce n'est pas de leur faute. Ils vont faire avec ce qu'ils sont. Ils sont tous les enfants du bon Dieu, ou ils sont tous les enfants de la République. Et l'intelligence, de son propre intelligence et de son héritage social, on ne dispose pas. Donc on n'a jamais senti que la note, à partir du moment où elle est une note sur le classeur, qui est un classeur d'écriture de premier jet, va complètement transformer les choses. Alors ça produit des didactiques passionnantes, parce que le premier jet permet de voir des choses qu'on savait, mais on n'avait jamais vues de cette façon-là. Les enseignants en avaient l'intuition, mais pas le savoir. Or, ce que permet en même temps le classeur, c'est la découverte que nos enfants écrivent comme des cochons. Et que les inégalités entre les meilleurs et les pires de la classe sont gigantesques. Alors que quand vous regardez les cahiers du jour, même entre les meilleurs et les pires, l'écart est infiniment moindre. Et ce n'est pas un miracle. C'est un mode de construction scolaire qui permet la gestion de quelque chose qui, à la fois, je dirais, respecte l'honneur des familles. Parce qu'il serait comme le cahier, la vitrine de la classe. Il faut que même les familles où les enfants réussissent le moins bien ne soient pas déconsidérées publiquement dans le village. Ça, je retrouve ma culture d'origine, je le sais. Mais en même temps, elle est un lieu qui favorise l'investissement des enfants dans le travail et qui les gratifie sur ce qu'ils ont à leur disposition, c'est leur force prolétaire de mise en œuvre de leur énergie. Alors qu'à partir du moment où on est sur le premier jet, je dirais que les écarts de rapidité et de performance spontanée des enfants deviennent une injustice absolument épouvantable, en même temps qui est la fatalité. Alors on va pouvoir développer des thèses du handicap socioculturel, puisque ce n'est plus la même chose du tout qu'on juge dans la classe. Alors, ça va nous ouvrir des espaces de compréhension énormes, mais ça va nous ouvrir des espaces de blocage pédagogique gigantesques, puisqu'on va passer notre temps à essayer de déconstruire ce qu'on vient de mettre en place, ou de compenser cela même qu'on fabrique. L'école devient une fabrique à la visibilité des inégalités, alors qu'elle était une école qui cherchait à produire une visibilité de la conformité sociale pour permettre de réduire les inégalités d'apprentissage. Et puis la deuxième chose, c'est que l'école fonctionne plus que sur la trace écrite, alors que l'école primaire Jules Ferrienne et avant fonctionnait sur les savoirs de la communication orale. On savait très bien, les enfants récitaient leurs leçons, on savait ce qu'ils savaient. Là, les trois quarts des choses, le cahier ne donnait qu'une toute petite partie de la visibilité du travail scolaire. Mais c'était suffisant pour que les parents sachent que le maître travaille et quels étaient ses critères d'évaluation de la production d'écrit, qui étaient très peu demandés, puisque l'orientation de 90% des enfants, c'était la vie active. On se trouve dans cette situation aujourd'hui, devant une nouvelle révolution technologique, avec l'arrivée de toutes les technologies nouvelles, avec l'arrivée d'une scolarisation beaucoup plus longue pour tout le monde, En gros, en France, on va à l'école jusqu'à 19 ans en moyenne, d'autres à perpétuité, comme vous savez. Et la question de la jonction des savoirs acquis hors l'école, alors je pense par les industries culturelles et aussi par les sociabilités de l'environnement, se pose de manière totalement différente. Le point numéro un, c'est que le métier des parents, sauf épicier marocain de mon coin de rue, est invisible aux enfants. Les enfants sont interdits de séjour dans les espaces de travail des parents. Donc les transmissions ne peuvent plus se faire de manière empirique. Même les transmissions rurales, moi quand j'étais petite, je savais traire les vaches et conduire les tracteurs. Je peux vous dire que les instruments qui existent aujourd'hui dans ce qui reste de les fermes environnantes chez moi, je ne peux pas m'en servir. Et je gêne au lieu d'aider. Si je peux faire, c'est garder les gosses pour éviter qu'ils soient dans les pattes de ces instruments dangereux. C'est-à-dire que vous avez, même dans l'espace rural, qui était le lieu où les enfants apprenaient le travail, les garçons avec les pères, les filles avec les mères, c'est fini et c'est pareil dans l'espace social. Deuxième chose, la plupart des travaux sont invisibles et incompréhensibles aux enfants, c'est les travaux de lecture. Qu'est-ce que fait quelqu'un devant un ordinateur? Jouer au solitaire, regarder des sites porno, régler un problème, écrire un article, fonctionner sur une commande. Voilà. Vous avez une très grande opacité donc, du lieu de travail, avec en plus le travail précaire et rare, alors que ce qui fonctionne le mieux, c'est les industries culturelles, et on sait que les enfants passeront dans leur vie à peu près 5 fois plus de temps, 6 fois plus de temps, dans leur vie jusqu'à leurs 30 ans, puisque c'est maintenant la fin de l'enfance, qu'à l'école. Comment l'école utilise-t-elle ou réutilise-t-elle pas? Voilà la question. Conclusion. Conclusion de ce... qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour la pratique? Alors, la première chose, c'est les pratiques, toutes les pratiques, y compris de nos collègues réputés les plus débiles, sont complexes. Et les théories, les discours théoriques, n'éclairent prioritairement qu'un point de vue sur ces pratiques, qui à certains moments deviennent... En gros, c'est, on a une masse énorme et on a des spots. Et le spot éclaire une partie de l'objet. Et nous oublions toujours qu'en dehors de cet objet éclairé, la partie éclairée de l'objet, il y a le reste. Et un des points qui m'a le plus appris... les enseignants qui ont le plus appris, c'est toutes les fois. Je disais, comment vous faites pour faire ça? Et la réponse était toujours, ah, Anne-Marie, ça dépend. Et ça m'agaçait quand j'étais jeune prof. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'était une espèce de renvoi, d'abord, à mon incompétence. Deuxièmement, au fait qu'il n'y a pas de loi. Or, moi, j'étais dans un monde où j'avais appris qu'il y a des lois générales, en psycho, en socio, en tout. Et qu'il faut trouver toujours, pour pouvoir parler, de la généralisation. Et le mode de fonctionnement des praticiens, c'est de dire, bien sûr qu'il y a des schémas d'action qui sont répétitifs, mais en même temps, ça dépend. C'est comme les chefs d'orchestre, nous diront, ah ben ça dépend si c'est à Vienne ou si c'est à Carnegie Hall, c'est pas le même public, c'est pas la même sonorité, ça dépend. Et ce travail, je crois que j'ai passé ma vie à chercher qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend de quoi. Et ce que j'ai trouvé, finalement, c'est que ce qui fait que dans le temps très court de la formation, on peut trouver des courts-circuits qui n'obligent pas à passer par la lecture de toutes les bibliothèques tellement intéressantes, nécessaires aux formateurs dont on vous a signalé avant, et que j'ai lu moi aussi parce que j'étais bien obligée, c'est qu'au lieu d'être sur les concepts, il faut relier les concepts à des situations, des exemples de situations qui peuvent servir de moule à partir duquel on va dégager des constantes et des variantes. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il y a d'un débutant, c'est de dire, alors pour ça que le récit historique ou le récit tout court peut servir, les témoignages, c'est si demain matin j'ai affaire à une classe de cours préparatoire où j'arrive, qu'est-ce que je vais faire le matin en arrivant pour pouvoir me donner les éléments qui vont faire que... On peut toujours faire une chose, c'est je vais vous lire une histoire. Ça marche toujours. Tu connais une histoire, tu vas regarder comment les enfants comprennent, et là, on va avoir une interprétation dans la réception. Et le deuxième point, c'est une fois que j'ai une série de situations prototypiques, on pourrait dire, hein, en maternelle, en CP, en CM, c'est pas les mêmes, une dictée, on peut toujours faire une dictée. En CM, tout le monde se tait, tout le monde est occupé, pendant ce temps tu circules et puis tu regardes. Donc c'est comment cette situation permet ou non de la prise d'indice. Et là, je peux vous dire que dans toutes les carayanes de la pédagogie que j'ai rencontrées dans mes 40 ans de vie professionnelle, il y en a beaucoup quand même. Et je pense pourtant j'étais dans un petit secteur dans les Yvelines, la partie sud, même si des fois je suis allée me balader du côté de Mantes. J'ai rencontré au moins 5 ou 6 carayades de la pédagogie qui m'ont dit ça dépend pendant des années, m'ont fait languir avant de bien vouloir que je voie leur classe et voir comment ça marchait. Tous ces carayades de la pédagogie avaient tous une chose qu'on peut recommander à des débutants, c'est de construire une mémoire des personnes ou des individus de la classe. Ils savaient tous dire, un an après, ah Fadila, bien sûr que je m'en rappelle. Oh ben écoute, en CE, ça vient du marché quand même, parce qu'elle était bien partie. Ils ne se trompent pas. Ils sont stables dans leur diagnostic. C'est-à-dire qu'ils redisent un an après la même chose de l'enfant que ce qu'ils disaient un an plus tôt. Et ils ne se trompent pas dans leur pronostic. Et ce qu'ils savent sur les enfants, c'est l'emploi très important qui les différencie des débutants, n'est pas simplement qu'elle était craquante, cette gamine, ou je me rappelle de sa mère qui était une hystérique, ou un jour elle m'a fait un truc super, c'est-à-dire des choses qui concernent justement, je dirais, la vie des personnes, mais ils savent aussi ce que c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah non, pour elle, ça c'est trop difficile. Je vais régulièrement dans une classe de cours préparatoire, je fais le test avec la maîtresse. Je crois que je peux faire lire ça, Charlotte. Oh non, ça, Charlotte, elle ne peut pas. Et à Djibril. Ah oui, Djibril, tu peux. Essaye, tu vois, je crois que tu vas y arriver. Elle ne se trompe jamais. Et ma question, c'est, sans avoir fait de DEA, de quoi que ce soit, ni de thèse, de linguistique, ni Lutte ou Dominique Bucheton, ni etc., ce qu'il faut faire, certainement, c'est comment ces enseignants se sont construits cette mémoire des situations et des personnes pour pouvoir faire en sorte que on avance dans la négociation en respectant tout ce qu'on vous a expliqué d'un point de vue théorique qui pour moi est parfait. Je me glisse dans le moule précédent, il me convient. Mon problème, c'est la faisabilité dans le court terme, lorsqu'on a très peu de temps pour pouvoir fonctionner dans l'urgence et dans l'indétermination. Et là-dessus, je pense que l'histoire, et j'ajouterai l'ethnologie de la classe, si j'avais à recommencer une carrière, c'est ce que je ferais. Je me ferais ethnologue de terrain pour transmettre à des savants les savoirs de la pratique dont je trouve qu'ils sont encore... Ils sont très bien théorisés, mais ils sont très mal transmissibles.